Leçon 10. Dispensatrice de vie, créée. 1. Le deuxième nom de la femme est vie. Genèse 3, 15 et 16 et 20. 1.1. Après la chute. Trouver le troisième passage définissant la nature de la femme est très simple. Il suffit de tourner la page pour lire Genèse 3. Quand nous nous penchons sur Genèse 3 pour voir un troisième aspect de la femme, nous le voyons émerger au milieu d'une malédiction, comme un joyau posé dans la boue. Quelque chose d'horrible et de tragique est arrivé depuis Genèse 2. Le péché est entré dans la race humaine. Dieu est venu dans le jardin et a prononcé trois jugements. Un sur le serpent, un sur le domaine de la femme et un sur le domaine de l'homme. Mais dans cette leçon, nous n'allons pas nous attacher à étudier le péché ou la malédiction. Nous allons nous concentrer sur le merveilleux aspect nouvellement révélé de la nature féminine, sa capacité à donner la vie. 1.2. La femme sera le vecteur de la victoire humaine sur Satan. Dans la malédiction contre le serpent, en Genèse 3.15, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ce verset très connu de la Bible est appelé le protévangile, car on y trouve la première promesse de l'évangile. Satan avait remporté une horrible victoire dans le jardin d'Éden, et la femme avait été le moyen de cette défaite, parce que c'est elle qui avait péché en premier. Mais la femme va être le moyen de la grande victoire à venir, parce que par elle viendra le vainqueur qui va écraser Satan de manière ultime. 1.3. La femme en tant que dispensatrice de vie est un thème dominant. Nous trouvons une autre mention de la femme en tant que dispensatrice de vie en Genèse 3.16. Dieu dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. » Nous ne savons pas dans quelle mesure Adam et Ève connaissaient le système reproductif au moment de cette déclaration, mais nous savons qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas encore d'enfants. Quand Dieu leur a annoncé « Vous aurez des enfants », cela a peut-être été une nouvelle pour eux, tant au niveau biologique qu'au niveau théologique. Il est remarquable de voir qu'Adam, après avoir entendu toutes ces nouvelles horribles de Genèse 3, 14 à 19, qui incluent la guerre, la douleur, le deuil, le labeur et la mort, choisit de se concentrer sur la bonne nouvelle de la femme en tant que dispensatrice de vie. Il se tourne vers sa femme et lui donne un nom pour la seconde fois, au verset 20. La première fois, il l'avait nommée « femme », ce qui signifie « tirée de l'homme ». Cette fois-ci, il la nomme « Ève », ce qui signifie « vie ». Le texte poursuit l'explication ainsi, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam a entendu Dieu dire deux choses. La première, c'est que la postérité de la femme écraserait le serpent. La femme serait le moyen par lequel la victoire spirituelle serait remportée pour la race humaine. La seconde, c'est que la femme aurait des enfants. Adam a entendu ces deux choses et il y a répondu avec foi. Le fait qu'Adam ait nommé sa femme Ève était une claire affirmation de foi de sa part. Il avait entendu la mauvaise nouvelle de la malédiction, mais il a choisi de se concentrer sur la bonne nouvelle qui était incorporée à cette malédiction. Grâce à la femme, il y aurait la vie, et pas uniquement la vie, mais une vie victorieuse. Donc, le troisième aspect de la féminité est sa capacité à dispenser la vie. Il est certain que nous avons le potentiel de donner la vie physiquement, mais cela va bien plus loin que ce simple fait. Si vous êtes célibataire ou marié sans enfant, ne vous dites pas « c'est une leçon sur la maternité, alors je ne suis pas concernée ». Nous sommes toutes des dispensatrices de vie. Dieu nous a créées avec une capacité dans nos corps et dans nos esprits de donner la vie, de nourrir, de guérir, de consoler, d'encourager, de rendre les choses vivantes. La maternité est importante, mais dispenser la vie ne se résume pas seulement à cela. 2. 20 dispensatrices de vie dans la Bible. 2.1. Des dispensatrices de vie bibliques ont donné vie à des leaders. Lorsque j'étais une jeune femme, j'ai passé 6 années à étudier la féminité dans la Bible de façon aussi systématique que possible. Alors que je parcourais les Écritures durant ces années-là, j'ai été frappée par le nombre de femmes dans la Bible qui ont eu des bébés et qui ont lutté pour la vie. Voici une liste de femmes qui ont donné la vie à des hommes clés. Ève, pour Seth, Sarah, pour Isaac, Rebecca, pour Jacob, Rachel, pour Joseph, Léa, pour Judas, Tamar, pour Pérez, Jochébed, pour Moïse, Shifra et Pua, pour Moïse, Myriam, pour Moïse, la fille de Pharaon, pour Moïse, la femme de Manoac, Samson, Anne, pour Samuel, Naomi et Ruth, pour Obed et la lignée du roi David, Jocheba, pour Joas, Élisabeth, pour Jean-Baptiste, Marie, pour Jésus, Loïs et Eunice, pour Timothée. Ces femmes et leurs histoires sont connues de certaines, mais ne sont peut-être pas familières à d'autres. Cependant, toutes ces femmes de la Bible ont dispensé la vie et ont lutté pour elles. 2-2, sept femmes sont des mères de lignées messianiques. Quelqu'un pourrait peut-être dire, si ces histoires de femmes qui ont eu des bébés sont dans la Bible, c'est uniquement parce que Jésus allait naître de leur lignée. Ainsi, la lignée messianique est retracée. Mais maintenant, Jésus est venu. Aujourd'hui, dispenser la vie n'est pas si important que ça. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Cela ne servait qu'à retracer la lignée juive de Christ à cette époque-là. Pour répondre à cela, faisons quelques remarques à propos de cette liste. Sept de ces femmes sont dans la lignée messianique, Ève, Sarah, Rebecca, Léa, Tamar, Ruth et Marie. Pour rien au monde, je ne voudrais sous-estimer l'importance des femmes qui ont dispensé la vie dans la lignée de Christ, ou l'importance de Marie qui a eu le privilège de mettre Christ au monde. Ceci est un grand honneur pour Marie et pour toutes les femmes. 2-3. La plupart ont donné vie à des leaders pour leur époque. Cependant, la plupart de ces femmes ne sont pas de lignée messianique. La majorité de ces histoires nous parle de femmes qui ont dispensé la vie pour l'œuvre de Dieu à leurs époques respectives. Genèse 3,15 a non seulement prophétisé une victoire humaine sur Satan, mais aussi l'inimitié et la guerre entre la femme et Satan et leur descendance à travers les âges. Dieu a utilisé la plupart de ces femmes pour mettre au monde, prendre soin et élever des hommes, utilisés par Dieu comme combattants durant leur génération. Par exemple, le fils de Rachel, Joseph, n'était pas de lignée messianique, mais il avait une grande tâche à accomplir. Moïse n'était pas de lignée messianique et pourtant, il a reçu de Dieu un travail monumental à accomplir. Et il a fallu 5 dispensatrices de vie pour le préparer à cela. Samson, Samuel, Jean-Baptiste, Timothée, aucun de ces hommes ou de leurs dispensatrices de vie n'appartenait physiquement à la lignée de Christ. Pourtant, ils avaient tous un rôle stratégique à jouer dans l'œuvre de Dieu. La majorité de ces femmes n'ont pas donné naissance à Christ et n'y ont même pas contribué. Mais toutes ont donné naissance à des sauveurs et des combattants pour le combat spirituel de leur temps. Le combat continue encore, le combat pour la vie et le combat pour la suprématie spirituelle sur la descendance de Satan. Nous devons mener ce combat à chaque génération. Les femmes doivent donner leurs soins et former la vie pour le combat spirituel qui se déroule dans cette génération et dans celle à venir. L'aspect du champ de bataille à toutes les générations sera largement déterminé par ce que les femmes ont fait à la génération précédente. 2-4. La plupart ont dispensé la vie de leur propre initiative. On pourrait dire aussi, cette liste ne s'applique pas à nous aujourd'hui, car des anges sont apparus à ces femmes et leur ont dit qu'elles auraient un bébé pour une raison particulière. Ce sont donc des cas inhabituels. Des anges sont apparus seulement à 2 de ces femmes, la femme de Manoac et Marie, plus un mari, Zacharie. La plupart de ces femmes ont dispensé la vie de leur propre initiative. Ces femmes voulaient donner la vie passionnément. Dieu n'a pas pris d'initiative envers elles. Elles ont pris l'initiative envers Dieu. Elles ont prié et ont recherché avec zèle à élever des enfants. Rachel, Tamar et Anne sont toutes de puissants exemples de femmes qui ont donné la vie parce qu'elles y étaient déterminées et Dieu a honoré leurs efforts. 2-5. 5 d'entre elles n'étaient pas mères. 5 de ces dispensatrices de vie n'étaient pas mères. L'Exode ne débute pas par l'histoire des 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï, mais par l'histoire de 5 femmes qui ont dispensé la vie à Moïse. Sa mère l'a mis au monde. Les 2 sages-femmes, Shifra et Pua, ont protégé la vie de Moïse en risquant volontairement leur propre vie, en désobéissant à l'ordre de génocide du roi. La sœur de Moïse, Myriam, l'a protégé en le surveillant sur le Nil. La fille de Pharaon a eu compassion de lui. A-t-elle eu compassion de lui parce qu'un ange est descendu et lui a dit « Voici un homme important de l'histoire et tu dois l'emmener dans ton palais ?» Non. Le texte nous dit en Exode 2,6 que « Elle vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait, elle en eut pitié. » Elle a été motivée par son propre cœur qui était féminin et par sa disposition à dispenser la vie. Elle a vu et entendu un petit bébé et instinctivement, elle a voulu le protéger et lui donner la vie, pas la mort. En dame de sagesse, la princesse était peut-être la seule femme en Égypte capable de préparer et d'élever Moïse pour le travail de sa vie. Mais c'était son cœur de mère et non sa grande puissance qui a ouvert la porte à ce ministère historique. Femme, quoi qu'il arrive, n'endurcissons pas nos cœurs. Dispenser la vie fait partie de la féminité que Dieu nous a donnée. Il veut nous utiliser jour après jour dans cette vie et nous devons avoir des cœurs pleins de compassion, tendres, prêts à soigner et aimants pour accomplir cette tâche. 2.6. Chaque époque historique majeure commence avec des dispensatrices de vie. Un survol de la féminité tout au long de la Bible révèle un autre point très significatif. Chaque époque historique majeure des Écritures commence avec des femmes. Cette nouvelle est remarquable et passionnante, surtout pour nous les femmes. En Genèse 1 à 4, nous voyons le début de la race humaine, avec l'histoire de Ève et la naissance de ses trois premiers fils. En Genèse 12 à 50, les bases de la nation d'Israël sont posées par les patriarches et leurs épouses. Ce sont les prières et les combats des femmes des patriarches qui ont établi les 12 fils de Jacob, affrontant les épreuves de la stérilité et même parfois de la mort. Ruth 4.11 affirme que Rachel et Léa ont bâti la maison de Jacob. Elles ont construit la nation en ayant des enfants et en prenant soin de leur famille. Comme c'est mentionné précédemment, l'Exode ne commence pas avec Dieu et Moïse au mont Sinaï, mais par l'histoire de 5 femmes qui ont donné à Moïse vie, protection et éducation. Les grands livres de Samuel ne commencent pas par Samuel, Saül ou David. Ils débutent par Anne, qui a lutté contre sa stérilité, a prié et donné naissance à un fils. Et la monarchie davidique alors? Nous ne savons rien de la mère de David. Par contre, le livre de Ruth nous donne non pas l'histoire de sa mère, mais celle de son arrière-arrière-grand-mère et la raison pour laquelle David s'est retrouvé à Bethléem. Il s'est retrouvé à Bethléem parce que deux femmes y sont retournées pour y fonder une maison et recommencer selon les voies de Dieu. Pourquoi des millions de pèlerins ont-ils envahi Bethléem depuis des siècles? Parce que Dieu a utilisé deux femmes fidèles pour s'y établir et pour y élever une descendance pour lui. C'est pour cette raison que la ville de David est Bethléem et c'est pour cela que Christ lui-même y est né. Qu'en est-il de l'époque apostolique? Matthieu et Luc commencent non avec Jean et Jésus, mais avec Marie et Élisabeth. Tout comme l'antique texte de la Genèse l'avait prédit, les guerriers conquérants sont venus et continuent à venir grâce aux femmes. Par conséquent, l'histoire de la victoire spirituelle commence par des femmes. Ultimement, c'est en Marie et par la naissance virginale qu'un sens plus profond encore est apporté à l'expression « la postérité de la femme », parce qu'humainement, Jésus était seulement la postérité de la femme et non la postérité de l'homme. Celui qui écraserait le serpent est né d'une mère vierge. L'Église est instituée dans les trois livres qu'on appelle les épîtres pastorales, 1 et 2 Timothée et Tite. En 2 Timothée 1, 5, Paul dit « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Timothée figure de bonne heure dans la ligne de tous les pasteurs du Nouveau Testament que Dieu a appelés au cours des deux derniers millénaires. Il était de la première génération après les apôtres. Et ici même, en tête de cette liste, nous avons l'affirmation claire que Timothée a reçu sa foi de sa mère et de sa grand-mère. Si nous poursuivions dans l'histoire de l'Église, nous serions probablement surprises de constater le nombre de grands hommes de Dieu et enseignants de la Bible qui ont été évangélisés et enseignés au cours des siècles par leur mère, grand-mère et autres dispensatrices de vie. Pour résumer, nous voyons que la femme a un grand rôle de dispensatrice de vie parce que c'est elle qui commence la vie physiquement et la nourrit spirituellement à chaque génération. 3. Qu'en est-il de nos corps? 3.1. La capacité à dispenser la vie fait partie du corps féminin. Que l'on ait eu des enfants ou pas, que l'on ait allaité des bébés ou non, nous avons un corps féminin. En tant que femme, nous avons des utérus, des seins et tout ce qui va avec le système reproductif féminin. Nous avons les capacités physiques pour dispenser la vie. Certaines femmes ont dit « ma biologie n'est pas ma destinée. Le fait que je possède un utérus ou des seins ne va pas influencer la personne que je suis, ni ce que je vais devenir. Ma vie sera séparée de la conception de mon corps. » À l'autre extrême, on a des gens et des peuples qui considèrent la femme seulement comme des usines à bébés. Ils disent « femme, tu es un utérus et des seins, un point c'est tout. » Nous savons que cela n'est pas juste non plus. 3.2. Obéir à Dieu est plus important que dispenser la vie physiquement. Qu'a dit Jésus? Luc 11, 27 et 28 rapportent la fois où il prêchait à une foule et une femme s'est exclamée « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Elle voulait dire que sa mère devait être très heureuse compte tenu du grand homme qu'il était. Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il enseigne que la chose la plus importante pour nous, les femmes, ce n'est pas notre utérus ou nos seins. La plus grande chose pour les hommes, ce n'est pas leur virilité, bien qu'ils y trouvent beaucoup de fierté. Ésaïe 56, 3 à 5 nous dit que l'eunuque qui aime Dieu aura un honneur dans la maison de Dieu qui sera préférable à des fils et des filles. Ce ne sont pas nos organes génitaux qui font de nous quelqu'un, c'est entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. 3.3. Notre biologie n'est pas notre destinée. Cela signifie-t-il donc que notre corps n'a aucune importance ? Que devrions-nous en penser ? Notre biologie n'est pas notre destinée. C'est plutôt le plan de Dieu pour notre destinée qui a déterminé notre biologie. Il avait un plan pour la personne qu'il voulait que vous soyez. Il a créé votre esprit et l'a placé dans votre corps. S'il voulait vous donner un esprit féminin, il a créé un corps féminin pour y placer cet esprit. Et puis, il a fait beaucoup d'autres choses. Il a créé votre corps, grand ou petit, gros ou maigre, avec des cheveux bouclés ou raides. Peut-être vous a-t-il créé avec certains dons ou handicaps particuliers. Il prévoit toutes ces choses en conformité avec la personne que vous êtes et ce qu'il veut que vous deveniez. 3.4. Notre biologie est cohérente avec le dessein spirituel de Dieu. Le corps n'est pas tout ce que nous sommes. Ce n'est pas la partie la plus importante de notre identité, mais il est cohérent par rapport à qui nous sommes. Par exemple, les hommes ont généralement des épaules plus larges que les femmes. C'est cohérent avec le fait que Dieu veut qu'ils portent de lourdes charges de responsabilité, qu'ils pourvoient pour leur famille, qu'ils dirigent l'Église, qu'ils défendent la vérité et qu'ils rendent la justice. Lorsque Dieu nous demandera des comptes, il va poser ces questions d'abord aux hommes. Il leur a donné des esprits capables de faire ces choses. Il leur a aussi donné des corps avec une carrure plus large et de plus gros muscles pour pouvoir porter des charges plus lourdes. Il devrait le faire physiquement et il devrait le faire spirituellement. Par ailleurs, il a donné aux femmes des traits plus doux, un visage plus expressif, une poitrine plus accueillante, un corps qui peut donner du lait et un utérus qui peut donner la vie. Comme nous le détaillerons plus dans les leçons suivantes, toutes les femmes devraient avoir une vie consacrée à donner des soins à la fois physiquement et spirituellement. Dieu a créé nos esprits et nos corps en harmonie. Un esprit féminin est un esprit qui nourrit la vie, animé dans un corps féminin conçu pour dispenser la vie à tous les niveaux. 4. Les domaines intérieurs que la femme préserve et garde, première partie. Historiquement, on a souvent représenté la vie féminine par un cercle. Voilà pourquoi c'est le symbole choisi pour la femme dans les schémas. Bibliquement parlant, la vie féminine est composée de plusieurs cercles concentriques. Nous avons beaucoup de domaines intérieurs qui commencent par nos corps et qui les incluent. Il existe au moins 8 domaines de cette sorte et je vais vous en présenter seulement 5 ici. Étant des vice-rois humains et des intendants, nous avons des domaines que nous devons gouverner. En tant que femmes, nous avons une responsabilité toute particulière concernant nos espaces intérieurs personnels et interpersonnels. Permettez-moi d'expliquer ce que j'entends par là. Tout d'abord, les espaces intérieurs et personnels sont, à l'intérieur, privés, protégés et gardés. Ils ne sont ni extérieurs ni publics. Deuxièmement, ces domaines sont interpersonnels, entre 2 personnes ou plus, et aussi pour 2 personnes ou plus. Voyons 5 de ces domaines intérieurs. 4.1. La virginité. Le premier espace intérieur et personnel de chaque femme est sa virginité. La Bible dit en Cantique des Cantiques 4.12 qu'une vierge est comme un jardin fermé, dans lequel un seul homme devrait pénétrer durant la nuit de noces. 1 Corinthiens 7 dit qu'une vierge, si elle ne se marie pas, appartient corps et esprit au Seigneur. Le domaine intérieur de son corps est un dépôt sacré. Deutéronome 22 enseigne que ce dépôt sacré n'est pas seulement le vôtre pour que vous en disposiez comme vous le voulez. C'est un dépôt sacré pour votre famille. Vous ferez honte à votre famille si vous vous prostituez. C'est un dépôt sacré venant de Dieu et pour Dieu. Votre corps lui appartient, c'est son temple, c'est un dépôt sacré pour votre futur mari que vous devriez garder pour lui. Et, ceci pourra vous surprendre, c'est un dépôt sacré pour votre nation. Deutéronome 22-21 nous dit qu'une fille immorale commet une infamie en Israël. et que c'est un mal qui pollue son peuple entier. La virginité des femmes d'une nation, leur pureté, est une des plus grandes ressources naturelles et humaines que nous avons, parce que la virginité est une porte vers deux choses d'importance capitale. Tout d'abord, c'est la porte qui permet à une femme d'aimer un homme, et ensuite, c'est la porte qui permet à une femme de donner la vie à des enfants. Cette porte ne devrait jamais être ouverte en dehors du mariage, parce que lorsque la virginité est déverrouillée, toute la réponse aimante d'une femme devrait pouvoir émerger dans une relation stable. Un mari mérite de recevoir tout l'amour de sa femme, et elle mérite d'avoir un endroit sûr pour le donner. Deuxièmement, déverrouiller la virginité ouvre la possibilité à une maternité. Les enfants méritent de naître dans une famille édifiée sur l'amour d'un homme et d'une femme mariés qui seront un père et une mère pour eux. La pureté est l'une des plus grandes façons de dispenser la vie à nos hommes. Permettez-moi de le redire, la pureté est l'une des plus grandes façons de dispenser la vie aux hommes. Proverbes 5, 9 à 12 décrit ce qui arrive aux fous qui s'adonnent à la promiscuité avec des femmes immorales. De peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne m'aies gémisse près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront et que tu ne dises « Comment donc ai-je pu haïr la correction ?» Notez plusieurs expressions clés, sa vigueur, ses années, sa force, le produit de son travail, sa chair, son corps. Ces expressions suggèrent la vitalité sexuelle d'un homme, sa capacité à être productif tout au long d'une vie. Cette force, vitalité et virilité doit être canalisée dans une relation pure et monogame avec sa femme. Si un homme sème sa virilité ici et là, sa vie sera gâchée. Salomon dit en Proverbes 5, 15 et 16 « Bois les eaux de ta citerne ». Cela signifie avoir des relations sexuelles avec sa propre femme. Les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Ce qui signifie que votre vitalité et votre virilité d'homme seront complètement gaspillées si vous les répandez dans une vie de promiscuité. De tels hommes finiront par gémir de leur perte et destruction. Versets 11 à 14 et 20 à 23. Il y a toujours existé des femmes immorales. Certaines ont été trompées et sont tombées dans l'immoralité. D'autres sont rebelles et plongent délibérément dans l'immoralité. Qu'arrive-t-il à une société lorsque les filles sages tournent mal ? Les filles sages sont celles qui se préservent pour devenir des épouses, des mères, des dispensatrices de vie et des gardiennes de la civilisation. Les hommes connaissent les règles. Épousez une jeune fille sage parce qu'elle va être votre femme, votre amante et la mère de vos enfants. Si elle est vierge, vous pourrez lui faire confiance pour qu'elle n'aime que vous. On peut s'attendre à ça de la part d'une fille sage parce que c'est exactement ce qu'est une fille sage, une femme avec un dépôt sacré qu'elle garde. Les femmes ne réalisent pas quel désastre c'est pour la virilité des hommes de notre pays que les jeunes filles tournent mal, les meilleures, celles qui étaient censées être bien élevées. Lorsque les filles abandonnent leur dépôt sacré et couchent ici et là, vers qui chercher pour trouver des compagnes de toute une vie? Pour qui et à quoi bon travailler? Comme préface à son livre « Men and Marriage », George Gilder nous raconte une merveilleuse histoire pour illustrer l'importance de la pureté pour les femmes et du mariage pour les hommes. L'histoire est intitulée « La princesse et le barbare ». Elle est un peu trop longue pour être citée intégralement, donc je me contenterai de la résumer. Le barbare est en train de faire des choses barbares, voler, faire le prédateur, etc. La princesse sort de son château et le rencontre. Il tombe amoureux d'elle. Immédiatement, il l'invite dans sa chaumière. « Viens vivre avec moi !» Elle lui répond « Non, je ne vais pas vivre avec toi dans ta chaumière. Tu devrais d'abord arrêter de voler, de piller et de saccager le pays. Construis une maison, mets-toi au jardinage, sois productif, ou alors je n'aurai rien à faire avec toi. » Son cœur est brisé. Il aime parcourir le pays en sauvage et se comporter en prédateur. Mais il veut la princesse, alors il fait ce qu'elle lui demande. Quand elle revient, il a construit une maison et travaille à son jardin. Il accomplit un travail productif. Alors elle l'emmène rencontrer le roi et la reine. Le roi lui dit « Je ne sais pas si tu as le bon profil pour être le mari de ma fille. » Et la reine dit « Mais toi-même, tu étais un peu barbare quand je t'ai rencontré, et pourtant, tu as bien tourné. » La princesse, en restant une princesse et en exigeant qu'il se comporte comme un homme avant d'obtenir sa main, peut transformer un barbare en roi. Il a gagné sa main, il a emménagé au palais et est devenu roi. Le fait est que nous avons le pouvoir de contribuer à transformer nos hommes en rois grâce à notre niveau de pureté. Mais quand les visages tournent mal, nous ouvrons la vanne à la barbarie qui est dans la nature de l'homme. 4.2. L'amour sexuel. L'amour sexuel est le deuxième domaine intérieur sur lequel les femmes règnent. Salomon décrit l'amour sexuel comme le mari qui rentre dans le jardin, qui est sa femme. Dans Cantique des Cantiques 5.1, le mari dit « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » C'est une image biblique de l'amour conjugal, où mari et femme festoient autour de délices sexuels, comparés aux aromates, au vin et au miel. Dans le mariage, le corps d'une femme devient un espace interpersonnel, un lieu de communion entre deux personnes. Tout comme la Vierge doit préserver le domaine de son corps, l'épouse doit l'entretenir avec soin et le partager avec son mari. C'est un dépôt pour les femmes mariées. Je sais qu'il y a des hommes profondément brisés dans leur esprit parce que leurs épouses les rejettent physiquement. C'est une blessure profonde et une lourde épreuve à imposer à n'importe quel homme. Les femmes qui refusent de partager le domaine intérieur de la sexualité avec leur mari devront peut-être affronter autant de honte au jour du jugement que les femmes aux mœurs légères affrontent dans cette vie. Vous ne vous considérez peut-être pas comme une femme magnifique ou comme une excellente amante, mais c'est notre responsabilité d'épouse d'ouvrir les jardins que Dieu nous a donnés après le mariage, tout comme c'est notre responsabilité de les garder fermés avant le mariage. 4.3. Le sein maternel. Le sein maternel est un autre domaine intérieur qui devient un espace interpersonnel. Notre première chambre à tous, c'est l'utérus de notre mère. C'est un endroit intérieur, privé et préservé. Mais l'enfant dans l'utérus de sa mère n'est pas seul. Il a une intimité merveilleuse avec sa mère. Un bébé entend le battement du cœur de sa mère, il entend sa voix et est bercé par le mouvement de son corps. Ce sont les premiers sons et les premières expériences de chaque vie humaine. Mais il existe quelqu'un qui est encore plus proche, quelqu'un pour qui l'utérus n'est pas une pouponnière, mais un atelier de travail. Ecclésiaste 11.5 dit que Dieu est celui qui forme les os dans le ventre de la femme enceinte. Psaume 139.13 dit que Dieu nous tisse dans le sein de notre mère. Au milieu du muscle et des tissus, des os apparaissent. Là où il n'y avait pas de vie, un être unique et nouveau prend forme. C'est un miracle. Votre utérus n'est pas seulement la première chambre de votre bébé, c'est aussi l'atelier de Dieu lui-même, de Dieu qui tisse dans le ventre maternel. Le dépôt sacré de l'utérus est violé à une très grande échelle dans le monde entier. Savons-nous pourquoi il y a tant d'avortements ? Il nous faut revenir au premier dépôt sacré. Nous violons l'utérus parce que nous violons la virginité. Nous n'avons pas été des amantes pures, et par conséquent, nous refusons d'être des mères pures. 4.4. L'étreinte féminine. Un quatrième domaine intérieur de la femme est sa poitrine, les bras en étreinte qui nous nourrissent et nous consolent. Nous savons que cette étreinte est fondamentale au lien mère-enfant. Qu'ils soient allaités ou nourris au biberon, les bébés se développent merveilleusement bien dans les bras de leur mère. Et pas seulement les bébés, mais aussi les enfants, la famille et parfois même les amis. Les étreintes, les câlins, les bisous, le toucher humain est fondamental à notre bien-être de créature personnelle et relationnelle. Nous devons non seulement mentionner le réconfort et la nourriture qui viennent des seins d'une femme, mais aussi leur beauté exceptionnelle et leur pouvoir enivrant. Proverbes 5, 19 et 20, traduction Second 21, encourage les jeunes maris. Que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue ? Si nous pouvions classer toutes les photos de couverture de magazines qui ont été faites dans l'histoire du monde, la grande majorité représenterait des femmes décolletées. Il y a deux raisons à cela, l'une est bonne et une autre mauvaise. La bonne raison, c'est que la femme est la couronne de la création. Il n'y a rien d'aussi beau qu'une belle femme. De tout ce que vous pouvez vous représenter, rien ne peut être comparé à elle. Une belle femme et surtout ses seins nus possèdent un pouvoir séduisant et enivrant. Le pouvoir enivrant n'est pas le problème. Dieu l'a donné aux femmes pour qu'elles puissent plaire et enivrer leur mari. Le problème, c'est qu'il n'a pas créé ce pouvoir pour vendre des magazines. Donc votre étreinte féminine et vos seins constituent un autre dépôt sacré. Utilisés selon Dieu, nos bras en étreinte peuvent nourrir, consoler, encourager et même enivrer. 4.5. Le foyer. Enfin, le cinquième espace interpersonnel est le foyer. Tite 2, 3 à 5 dit que les femmes âgées devraient enseigner aux jeunes femmes à être des épouses et des mères aimantes, occupées aux soins domestiques, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. La maison est le domaine spécial de la femme, l'arène principale où elle dispense la vie. De nombreuses femmes ont tenté de vivre selon la philosophie féministe « vous pouvez tout avoir à la fois, une carrière et une famille ». En chemin, elles rencontrent une curieuse et difficile réalité de la vie. Les femmes peuvent aller travailler dans le domaine extérieur, mais cela ne signifie pas que les hommes deviendront maternels et s'occuperont des soins domestiques dans les domaines privés. Peu importe combien de to-do list ou de tableaux de répartition des tâches ménagères, elles se retrouvent malgré tout avec deux boulots, leur carrière dans le domaine public et leur responsabilité à la maison. Les hommes ne partagent pas équitablement le travail dans le foyer ou ne l'assument pas selon les exigences des femmes. Ce double emploi des femmes qui travaillent à l'extérieur a été décrit par Harley Hochschild, une féministe éminente, dans son livre intitulé « The Second Shift », le deuxième travail. Dieu a équipé et prévu pour les femmes que la maternité et les soins domestiques soient parmi leurs droits et devoirs inaliénables. Que l'on travaille à l'extérieur à plein temps, à mi-temps ou pas du tout, nous avons en tant que femmes un don particulier, un appel, une mission et une responsabilité venant de Dieu à prendre soin de la maison d'une manière que les hommes n'ont pas. Mon mari m'aide beaucoup et je lui en suis profondément reconnaissante. Mais ce n'est en aucun cas moitié-moitié et ce ne devrait pas l'être. La maison est notre domaine principal. Dieu l'a donné à la femme comme une responsabilité unique. De tous les espaces interpersonnels, c'est celui qui a le plus d'influence sur la vie humaine. C'est le lieu pour se nourrir, se reposer, être consolé, se sentir en sécurité, apprendre, communiquer et aimer. 5. Définition de celle qui construit sa maison. 5.1. Entretenir la maison. Voyons trois définitions qui nous aideront à délimiter les responsabilités à la maison. Tout d'abord, l'entretien d'une maison comprend les tâches quotidiennes et banales comme faire les lits, laver la vaisselle, épousseter, etc. Les tâches ménagères font l'objet de beaucoup de plaintes et on les ridiculise parfois, mais je trouve que l'entretien de la maison a quelques grands avantages. Les tâches banales pour entretenir la maison me donnent le temps de réfléchir, de prier et de méditer. Les tâches ménagères reposent l'esprit du travail intellectuel intense et déchargent l'esprit d'un stress impressionnant. Une femme de ménage peut dire avec le psalmiste en psaume 131 « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. La dette publique est écrasante, mais je peux vaincre cette pile de linge sale. Ce linge fait partie de mon domaine, la dette publique non. » Un autre avantage d'entretenir la maison, c'est que les jeunes enfants se sentent en sécurité lorsque leur maman s'occupe du ménage, parce qu'ils perçoivent que ses pensées et son esprit sont à la maison. Lancez-vous dans une grande conversation téléphonique longue distance, et alors que se passe-t-il? C'est le chaos. Ils sentent que vous n'êtes pas là en esprit, que vous n'êtes pas disponible pour eux, et ils sont malheureux. Mais repassez et récurez, et les voilà alors en train de jouer joyeusement, parce que vous êtes véritablement dans la pièce d'à côté, corps et esprit. Faire le ménage soi-même présente encore un avantage, c'est que l'on n'a pas besoin de gérer et de payer une femme de ménage. Certaines aides ménagères causent plus de soucis qu'elles n'en valent la peine. Votre employé de maison est une personne de plus à qui il faut avoir affaire, qu'il faut diriger et parfois dorloter. Si vos relations sont déjà trop étendues, faire de votre propre ménage peut être un soulagement. Vous le faites comme vous le voulez et vous éliminez une personne intermédiaire. Ainsi, les tâches banales peuvent être bonnes et utiles pour notre esprit, notre corps et notre âme. S'en occuper soi-même peut augmenter la paix du foyer. Enseigner à nos enfants à aider avec les tâches ménagères est toujours une bonne idée. Bien évidemment, il peut arriver qu'embaucher une aide ménagère soit appropriée dans certaines situations. 5.2. Créer un foyer. La seconde définition concerne le foyer. Créer un foyer, c'est créer habituellement une atmosphère propice au repos, à la communion, à l'amour, à l'apprentissage, à la sécurité. Toutes les femmes peuvent le faire, qu'elles soient mariées ou célibataires. Ma sœur célibataire a fait cela pour moi, en particulier dans une saison de ma vie où j'étais débordée. Elle a œuvré pour que son appartement soit un bel espace intérieur, et c'est un ministère envers moi et envers d'autres. surtout à l'époque où je croulais de travail avec 8 personnes à la maison, incluant des très âgés et des très jeunes, c'était merveilleux de pouvoir quitter mon domaine pour lui rendre visite, parce qu'elle avait fait de son domaine un foyer attrayant et rempli d'œuvres d'art, de bons livres et de bons plats. Créer un intérieur est un art féminin pour toutes les femmes. C'est un art difficile aux multiples facettes qui non seulement n'est plus à la mode, mais devient de plus en plus inconnu. À n'importe quelle époque, créer un foyer plein de grâce qui dispense la vie est chose rare. Le féminisme a dénigré le foyer et les tâches domestiques pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, les capacités d'autogestion et les savoir-faire universels pour y parvenir sont pratiquement inconnus. Créer un foyer agréable qui nourrit la vie humaine dépend de nombreux savoir-faire, tels que la connaissance des différents tissus, de la décoration intérieure, de la cuisine, du ménage, de la gestion financière, des bonnes manières, des soins médicaux, des relations humaines, des plantes et même parfois des animaux. Avec son style habituellement dramatique, G.K. Chesterton développe l'idée de la femme comme une universaliste et de l'homme comme un spécialiste dans sa condamnation perspicace du féminisme il y a plus de 100 ans. Voici un petit extrait. Être reine Élisabeth avec un domaine défini, décidant de ventes, de banquets, de tâches et de fêtes. Être Whiteley avec un certain domaine pourvoyant aux jouets, aux bottes, aux draps, aux gâteaux et aux livres. Être Aristote avec un certain domaine enseignant la morale, les bonnes manières, la théologie et l'hygiène. Je peux comprendre comment tout cela pourrait épuiser l'esprit, mais en aucun cas je ne peux imaginer comment cela pourrait diminuer l'esprit. Comment cela peut-il être un travail important que d'enseigner aux enfants des autres la règle de trois et un travail minable que de parler à ses propres enfants de l'univers? Comment cela peut-il être large de dire la même chose à tout le monde, mais étroit que d'être tout pour une seule personne? Non, le travail d'une femme est laborieux, mais c'est parce qu'il est énorme et non parce qu'il est banal. Je peux plaindre Madame Jones pour la grandeur de son travail, je ne la plaindrai jamais pour la petitesse de son travail. Ce n'est pas un secret que bien des femmes sont allées chercher un travail à l'extérieur parce qu'elles ne possédaient pas les compétences d'initiative et d'autogestion pour réussir dans leur foyer. Cela peut sembler plus facile de s'asseoir à un bureau et de gérer un éventail limité de papiers et d'appels téléphoniques que de rester à la maison et de gérer l'ensemble du microcosme de la famille humaine et de son environnement. 5.3. Bâtir la maison. Je tire l'expression « bâtir sa maison » de Proverbe 14.1 qui dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Les anciens de Bethléem ont appelé la bénédiction sur Ruth en Ruth 4.11. « Puisses-tu être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël ?» Bâtir sa maison dans ce sens peut être défini comme le travail de toute une vie qui consiste à aider un homme, créer et prendre soin d'une famille, produire des richesses, gagner une réputation, bénir l'église locale et la société, fortifier la nation et ainsi influencer le monde. Une de mes amies m'a dit que cette définition l'a soutenue bien des jours. Bâtir sa maison, c'est tout ce que nous faisons pour donner des racines et des ailes à ceux qui nous entourent. Ce sont les prières que nous faisons, les écritures que nous enseignons pour affermir nos familles en Dieu, les fêtes que nous organisons, les souvenirs que nous conservons, les bénédictions que nous offrons et les défis que nous projetons pour l'avenir. Les anciens qui ont envoyé Rebecca pour se marier avec Isaac l'ont bénie ainsi en Genèse 24:60. Puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Posséder la porte de ses ennemis signifie avoir la victoire sur ses ennemis. Nous pourrions résumer cette bénédiction ainsi, que le travail de ta vie soit de bâtir une famille qui avance victorieusement dans la vie pour être une bénédiction spirituelle de génération en génération. Entretenir une maison ne veut pas dire la même chose que créer un intérieur, et créer un intérieur ne veut pas dire bâtir sa maison. Comprendre ces trois aspects différents de votre relation avec le domaine intérieur de la maison vous aidera à maintenir vos priorités, garder le respect de vous-même et préserver votre objectif à long terme. Si une femme pense qu'elle n'est bonne qu'à laver les toilettes, ce n'est pas surprenant qu'elle se sente en colère ou sous-employée. Mais par ailleurs, si elle organise sa vie de manière à bâtir une famille qui aura un impact sur le monde dans le siècle à venir, elle ne manquera ni d'assurance ni d'objectif. Ce qu'il y a de plus noble n'existe pas sans ce qu'il y a de plus humble. Il est nécessaire d'entretenir sa maison afin de créer un intérieur et bâtir une famille. Ce qui est banal et ce qui est majestueux font tous les deux partie de la carrière d'une maîtresse de maison. 6. Défis pour dispenser la vie. 6.1. La nourriture la plus importante est la parole. Dispenser la vie, c'est tout ce qui nous élève de la simple existence vers la vie et qui est caractérisé par l'animation, la vitalité, l'intérêt, la vigueur et la joie. Cela peut se faire physiquement, socialement, intellectuellement, artistiquement et spirituellement. Toutes les femmes sont des dispensatrices de vie, qu'elles soient mères ou non. Nos corps se nourrissent d'aliments. De quoi se nourrit notre esprit ? La parole de Dieu est l'ultime nourriture de l'esprit, mais toutes les paroles constituent une nourriture. Les proverbes nous disent qu'elles peuvent être un arbre de vie, 15.4, une épée, 25.18, un feu, 16.27. Les paroles ont un grand pouvoir pour instruire, pour blesser ou pour être comme un baume réparateur de l'âme. Nous prononçons tous une multitude de mots chaque jour et des milliards de mots au cours de notre vie. À cette époque de malbouffe de l'esprit, où les mots vulgaires, vides, stupides et même obscènes se multiplient, nous devrions nous entraîner à vivifier les esprits de ceux qui nous entourent par de bonnes paroles. 6.2. Faites l'inventaire de votre domaine. Toutes les femmes devraient être des dispensatrices de vie, en donnant leurs soins, en encourageant, en enseignant, en embellissant ou en guérissant. Refaites l'inventaire de votre domaine et posez-vous la question suivante. Où est-ce que je dispense la vie? À qui est-ce que je prodigue mes soins? Comment est-ce que je m'y prends? Vous, les épouses et les mères, ne vous lassez pas de faire le bien. Prendre soin de votre foyer, préparer les repas, encourager votre mari, aimer et élever vos enfants, ainsi que les centaines d'autres choses que vous faites pour donner la vie à votre famille et à votre communauté, ce travail est vital et constitue un ordre de Dieu. Célibataires, ne vous y trompez pas, vous aussi avez été créés pour être des aides et des dispensatrices de vie. Lorsque vous offrez votre amitié, que vous encouragez, que vous prenez soin ne serait-ce que d'une seule personne, vous remplissez votre rôle en tant que dispensatrice de vie. Quand vous aidez des familles, nourrissez les autres dans l'église ou dans la communauté, vous êtes vous aussi en train de bâtir des maisons. Tous nos dons, nos talents, notre art, nos professions devraient être des canaux pour dispenser la vie de Dieu autour de nous. Il existe autant de variétés et de versions de dispensatrices de vie que des milliards de femmes dans le monde. Vous en êtes une, unique et précieuse. Ma prière est que cette étude illumine et vivifie cet aspect central de notre nature féminine.